On poursuit le compte-rendu de la journée du mardi 16.
15.
Mardi 15 avril. Mardi 15 avril, j'ai dit une connerie.
Ouais.
Et l'après-midi est consacré donc aux premières prises de parole des avocats de la défense. On ne va pas s'étendre énormément sur les avocats des uns et des autres. Et on va en dire quelques mots au passage. En fait, ça commence par.
Non, on va pas. On peut quand même dire qu'on ne va pas s'étendre parce que ces gens n'ont pas fait leur travail.
Bah,
pendant
disons
15
qu'ils
jours, ils se sont écrasés devant la cour. Ils n'ont pas réagi jamais quand il fallait réagir. Ils n'ont jamais soulevé un point qui aurait pu servir leur client à aucun moment. Ils n'ont jamais interrogé un seul témoin, une seule partie civile. Ils n'ont jamais défoncé les procs quand il s'agissait de le faire. Ce qu'on a vu pendant 15 jours, c'est des gens qui s'écrasent en attendant de plaider, quoi. Quand ils sont là, parce que
quand ils sont
par
là, parce qu'après,
ailleurs.
voilà. Il y a quatre avocats, parce qu'il y a quatre personnes. En gros, qui sont dans le box. Hein. Donc il y a Metaxas, donc lui, jeune premier, jeune loup aux dents longues de la cour, qui avait un peu comme d'étoiles filantes, qui a pété en plein vol, rattrapé par des affaires de copinage en se prenant pour à la fois l'ami des flics pourris et l'ami des grands voyous en se racontant ça, qui a fait, paraît-il, à une époque des plaidoiries fulgurantes. C'est pas ça qu'on a vu. Hein, on a vu beaucoup d'effets de manche, et lui il défendait bien sûr, je dois le dire, Eugène Bagues. Alors il a fait des grands effets de manche, des grandes déclarations comme ça, où il s'adresse à la cour, il s'adresse à la cour, il s'adresse à la cour.
C'est un mec qui a osé commencer sa plaidoirie en disant « Bon, je suis obligé d'être sincère avec vous, parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'être sincère. » Ou alors, je sais plus bien même de quoi il servait pour ça, je crois qu'il servait de la bagarre. Hein. Il a dû dire un truc comme « J'en veux beaucoup à Eugène d'avoir fait ça, mais Eugène, vous comprenez, c'est son ennemi à lui-même, tout ça, machin, il nous a fait un truc comme ça. » Et donc il a commencé par dire « Je suis obligé d'être dans la sincérité » pour faire après un genre de numéro de je sais pas, on dirait... Je pense que ce mec a regardé beaucoup de films de procès américains et se dit que c'est ça, plaider une histoire, c'est-à-dire se faire mousser soi-même avant toute chose. Quoi.
Sans dire grand-chose, ni sur l'affaire et les faits, ni... quand il s'embarque sur le terrain d'un point de vue général, sans en dire autre chose que des banalités de comptoir.
Ouais. Et après, non, en fait, il a surtout fait un truc scandaleux. C'est que c'est un type qui a commencé en disant « Je devrais plaider l'acquittement pour Eugène, puisqu'il n'y a rien dans le dossier qui l'incrimine réellement, à part des paroles. Mais en fait, il n'y a rien dans le dossier pour lui. Donc il dit « J'aurais dû plaider l'acquittement. » Bon, mais je ne vais pas le faire. Donc quand tu commences à partir perdant comme ça, ça commence à sentir pas bon, quoi.
Et il s'évertue, après, à démontrer qu'il n'y a rien dans le dossier. Et qu'il n'y a rien. Il ne le démontre pas, il le dit, comme ça. Et il revient sur, en gros, la responsabilité présumée de Eugène Baeb dans la complicité d'introduction des armes à l'intérieur, en disant qu'il n'y a rien qui constitue cette infraction.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux.
Enfin...
Et qui n'a absolument rien... Il peut dans l'acte d'accusation, même dans les débats pendant les trois semaines qui sont passées, dire quoi que ce soit là-dessus. Est-ce que alors du coup évidemment encore moins la tentative d'homicide et encore moins tout ce qui s'ensuivra de l'évasion en disant à ce moment-là si le fait quand bien même d'introduire une arme, quand bien même etc. il faudrait incriminer à ce moment-là tous les gens qui ont fabriqué cette arme. Voilà, il a quelques trucs là-dessus.
Oui.
Et il dit quelques trucs sur la prison au passage, où, on va dire, le passage intéressant, c'est quand il parle de Corba, qui connaît bien, parce qu'il a évidemment défendu pas mal de gens qui étaient à Corba. Et notamment, il se retrouve à être le défenseur de la dernière mort suspecte, comme on dit, de la prison de Corba, qui était la semaine dernière. Mmh. Il y avait un rassemblement devant la prison samedi dernier. Et il se retrouve à dire, voilà, à égrener simplement la liste des suicides et comment ça se fait que dans ces prisons modernes dites naninana, où on a fait progresser le droit et le quotidien carcéral, comment ça se fait qu'on a le record de suicides de toute la France à ce moment-là et que Corbas bat lui-même ses propres records et que là, en 4 mois, on a déjà pété le record de l'année dernière. On ne s'étend pas beaucoup plus...
Non, alors juste, donc il a commencé par dire, j'aurais dû plaider l'acquittement, et il se retrouve à faire un truc très bizarre. Et de dire, donc il essaye de montrer plutôt que de démontrer qu'il n'y a pas de complicité, et il finit en disant en fait, il n'y a pas de complicité, ce qu'il y a, c'est une connivence.
Voilà.
Ce qui, en droit, veut pas dire la même chose. Mais comme il s'adresse à des jurés qui comprennent complètement rien au droit, en fait, il réintroduit l'idée qu'il y a quand même un lien entre Eugène et les autres gens. Enfin, la particularité de la connivence par rapport à la complicité, c'est une particularité juridique. Et du coup, au lieu de dire je demande la relaxe ou l'acquittement, il dit je demande 3 ans, qui sortent de on sait pas bien où et qui en fait correspondent à la détention provisoire à peu de choses près que Baeb a tapé pour cette histoire.
Parce que pendant cette période-là, sa peine à lui courait pas, parce qu'il est prévenu dans cette affaire-là. Donc ça met entre parenthèses sa peine qu'il était en train d'effectuer en prison à ce moment-là. Et il dit juste, il faut qu'en sortant de ce procès, il
Il recommence sa
recommence
peine.
sa peine. Voilà, bon allez hop, on efface tout, on n'efface pas tout, il s'est passé ses 3 ans, très bien, mais maintenant il recommence sa détention normale.
Ce qui est absurde.
Ce qui est complètement absurde, ce que personne ne comprendra vraiment. L'avocate qui suit, elle tranche dans le style. C'est plus les effets de manche, elle le dit, elle ne cesse de le dire d'ailleurs. Elle parle très lentement et elle s'adresse centralement aux femmes du jury. Elle
Elle défend
fait.
Nadia Kabouch.
Voilà. Elle défend Nadia Kabouch. Et elle est donc sur un terrain, elle, beaucoup plus proche, la proximité en fait. Voilà. C'est une plaidoirie de proximité.
Ah, bon. C'est un peu comme si la veille on vous a parlé de Winter là, qui défendait les matons en disant nous tout le temps comme ça. Donc il a fait une plaidoirie de syndicat de matons et elle c'est un peu comme si elle faisait une plaidoirie de syndicat de jurés un peu.
Voilà.
Elle se met complètement à hauteur, elle fait un peu un truc très benêt comme ça. Elle dit elle-même qu'elle a fait des recherches Google pour comprendre un truc, elle se met vraiment à hauteur de
Le
femme en fait.
truc qu'elle a essayé de comprendre, c'était qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans.
Voilà,
Voilà,
c'est
donc
ça.
ça, c'était le passage qui, du coup, est intéressant et qui dit quelque chose quand même de ce qu'est la détention et ce qu'est la prison. C'est 4 ans, le temps. Elle parle un peu du temps, et ça, elle en parle en mots simples à ce moment-là. Et
Bon,
ça intéresse.
en fait, pour être
Je
complètement
vais.
juste, je dirais que cette avocate s'est très mal comportée pendant 15 jours et encore plus aujourd'hui, ça vous le saurez un peu plus tard. Mais que par ailleurs, elle a fait une plaidoirie qui était très cliché, très pénible à entendre pour nos oreilles un peu plus allez, pro-féministes. Alors qu'elle a fait un truc très homme-femme en essayant de démontrer que Nadia Kabouch était une femme amoureuse et que par amour, on peut être amené à faire des trucs invraisemblables, machin. Mais que du coup, maintenant, ça suffit, en fait. Elle a payé pour ce truc, elle a fait 4 ans, et maintenant, il faut la laisser sortir parce que c'est une mère avant tout. On était vraiment sur des registres quand même assez pénibles.
Et en disant que quand
Mais
on est une femme
qui...
amoureuse, on est un peu con.
C'est ça.
C'est comme ça. Et
Et puis
que
on... Comme ça.
on attend, on est bien traité, on est content d'avoir des textos, on est content d'avoir une lettre, on est content d'avoir son homme quelque part en prison. Donc bon, bah en même temps,
Là,
au moins
ouais,
il
non,
est quelque
bah, elle a
part,
osé
ça
dire
c'est.
des trucs atroces. Enfin, si on se permet de dire ça, c'est que bien sûr, elle s'est quand même permise de dire que pour Nadia Kabouch, en fait, vu comment les hommes sont à l'extérieur, finalement, un homme qui est en prison, au moins, c'est un homme qui est tout à soi, parce que il a que ça à foutre de penser à vous. Et puis, c'est un peu comme quand on est la maîtresse de quelqu'un, parce que quand on est la maîtresse de quelqu'un, on n'a que le meilleur, on n'a pas le pire, alors on n'est pas obligé de laver les chiottes et je sais pas quoi. On peut se permettre d'avoir juste les mots doux et machin. Enfin, elle s'est permise des trucs qui sont atroces en vrai. Se permettre de dire ça, c'est scandaleux. Juste, à l'endroit où elle est, elle, puisqu'elle a décidé de ne pas faire corps du tout avec la défense, avec la défense, avec tous les gens qui sont dans le box, de sa place à elle, elle a fait passer Nadia pour
Gentille
une petite
cruche.
et serveuse, voilà, une gentille cruche amoureuse d'un mauvais homme, quoi. Quelque chose
Voilà.
comme ça. Ce qui est peut-être efficace, voilà, mais après, ça, on va le redire, je pense, un peu pour les autres, c'est que ces défenses-là, toutes les défenses auxquelles on a assisté avant celle de Delphine et Bernard Ripert de Delphine Boiselle et Bernard Ripert pour Christophe, en fait, à la fin de ces plaidoiries, tu te dis, mais si on me défend comme ça, c'est-à-dire si on me défend en présentant un portrait de moi qui est aussi loin de qui je suis, c'est insupportable. Enfin, Metaxas, s'il a présenté Baeb comme quelqu'un qu'il n'est pas, moi je connais pas Baeb, mais je sais que Metaxas n'a pas parlé de lui. Elle a parlé de Nadia d'une manière qui était insupportable, et on va voir après que pour les deux autres, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire, on est dans un jeu de rôle qui colle pas du tout et qui est en fait très humiliant
Bah
pour
là
les gens qui sont défendus.
c'est le cas pour Lebras, qui est l'avocat de Sylvie,
Une
qui
horreur!
lui fait la même chose. Il commence par dire, c'est toujours ce truc assez classique de commencer à dire ce qu'il ne va pas faire et le faire. Il commence à dire nous ne sommes pas des mendiants des sentiments, de l'émotion. Nous ne sommes pas des mendiants de la liberté. Mais je vais vous faire une plaidoirie intégrale sur le pathos, le pathos, le pathos. Donc ça, il le fait pendant une bonne heure, hein, en revenant et en allant reciter longuement les témoignages des proches de Sylvie, qui sont venus témoigner à la barre, donc sa mère, sa sœur et son beau-frère.
En se permettant de faire un truc, en se permettant de faire un truc que moi j'ai trouvé de la même manière complètement insupportable, c'est de faire passer cette famille qui donc accompagne Sylvie quand même depuis 4 ans, on les a vus déposer à la barre et c'est des gens qui l'aiment profondément et enfin, qui sont vraiment de son côté à elle. Il s'est permis de les faire passer du côté des parties civiles, quoi. Il s'est permis d'en faire des victimes de ces faits-là. Mais en l'occurrence, ces gens ne sont pas des victimes de ces faits-là, c'est des gens qui aiment leur fille. Enfin, quitte à être dans le pathos, les vérités, elles sont là, en fait. Ce n'est pas des gens qui sont victimes, c'est des gens qui sont aimants.
Ils ont été victimes comme les autres victimes de cette affaire constituée partie civile. Ils ont été victimes du coup de folie du coup de folie de Sylvie. C'est ça,
Et en fait, des
l'intégralité de
kidders,
sa
hein.
plaidoirie.
Enfin,
Et
ce qui veut
derrière
dire, c'est
ça,
kidders. Hein.
toujours sous-entendu, jamais dit clairement, hein, sans jamais, il n'a pas enfoncé le clou de la responsabilité de Christophe par rapport à Sylvie, mais c'est en sous-texte, en fait. Et c'est d'autant plus en sous-texte qu'il ne cesse de répéter que, pour plaider le fait qu'il n'y a pas de réitération possible, aujourd'hui cette histoire d'amour, qui en était une, qui était très belle, n'est plus, voilà, et qu'il n'y a pas de risque de réitération pour une bonne autre raison, c'est que Sylvie n'est pas une militante. Voilà. Et ça, il l'a répété 4 fois. C'est-à-dire, en gros, Sylvie est quelqu'un d'absolument normal, contrairement à ces gens un peu fous que seraient Christophe, Omar, etc., qui se battaient en prison, en réponse, hein, à ce qu'on disait précédemment à l'avocate de l'avocate générale, qui voulait dire qu'à l'intérieur de la détention, il faut se taire, il faut se coucher, et c'est comme ça qu'on arrive à en sortir le plus vite possible. Et que Sylvie ne s'est pas comportée comme ça. Ce qui est une négation
De sa vie.
aussi de sa vie et de sa vie en prison, puisque, et même de ce qu'elle a dit elle-même pendant ce procès, puisque le peu de fois où elle a eu la parole et où elle a parlé, elle a décrit la prison, pas en termes exclusivement de victime de la prison, mais en tant que quelqu'un qui, à l'intérieur de la prison, a raconté à l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur, a dénoncé des morts à côté de ses ailes. On rappelle qu'elle a dit, moi j'ai vu la mort en prison. Elle dit, j'ai vu des gens mourir à côté de moi. Et ça, elle l'a dit à la barre. Ça, tout ça, il faut que ce soit balayé. C'est mis sous le tapis. Il veut faire oublier toute cette partie-là d'elle en
Et
disant, si on fait oublier ça, on risque pas de la charger et de faire d'elle quelqu'un qui, quand bien même elle serait marquée par la prison, elle va pas se retrouver demain à continuer à se battre contre la prison, et donc encore moins à faire évader qui que ce soit.
en la dépossédant de sa propre existence parce qu'il s'est quand même permis de re-raconter toute sa vie à sa place. Et il a raconté pas une vie en fait, il a raconté une dégringolade et il a présenté ça comme une dégringolade,
À
c'est-à-dire
cause d'histoires d'amour
Sylvie
successives.
est née dans une bonne famille où tout le monde a réussi, où elle était très entourée, tout allait bien machin, et puis ça a commencé à vriller un peu quand elle est tombée amoureuse d'un type, que ça s'est pas bien passé, qu'elle a été très chagrinée par ça. Puis alors après elle est sortie en boîte de nuit, alors là quand elle est sortie en boîte de nuit elle a vraiment dégringolé, puis elle a rencontré un autre type qui était encore un sale type, puis là elle a encore plus chuté, puis après elle a rencontré encore un autre sale type. C'est une fille qui est soi-disant faite que par ses erreurs amoureuses, quoi, comme si elle n'avait pas de libre arbitre ou de je sais pas quoi, de volonté propre. C'est une fille qui a toujours été agie par ses hommes, quoi.
C'est ça.
C'est insoutenable, quoi.
Et puis c'est pas, encore une fois, c'est
C'est
même,
pas elle.
c'est pas elle, c'est, enfin, c'est pas ce qu'elle a elle-même dit d'elle-même dans ce procès-là, puisque jamais elle ne s'est jamais elle se serait autorisée elle-même, pour elle-même, à dire ça d'elle-même et des hommes qu'elle a aimés, à part où, quand elle a parlé d'une vieille histoire, voilà, en disant oui, c'était dur, machin et tout, mais bon, c'est ça, c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie, mais c'est pas une dégringolade, c'est ma vie. Bon, bref, passons sur ce bonhomme. Et on arrive, là c'est le mercredi matin, donc le 16 avril,
Bah, il y a Lombroso quand même.
à Lombroso, mais qui a plaidé,
Ah oui, c'est le lendemain.
il a plaidé le mercredi. Il aurait adoré plaider le mardi, parce que monsieur avait pris un train et voulait absolument pouvoir retourner à Paris dans la journée. Ils se sont même empaillés avec quelques avocats en début d'après-midi, parce qu'il voulait absolument pouvoir faire sa plaidoirie.
Donc c'est Steve qu'on n'a pas vu pendant 15 jours, qui a envoyé ses assistantes à sa place pendant 15 jours, et qui s'est pointé beau prince avec sa Minerve. Il a commencé sa plaidoirie en s'excusant en fait. Il a dit à la cour, je suis désolé de ne pas avoir été là parce que vous comprenez, j'ai un alibi. Et il a montré sa Minerve posée sur le banc, quoi. Monsieur avait mal au cou.
Et
puis il s'est excusé sur son bouquin. Il a dit, bon, puis alors ce bouquin, en fait, c'est un manifeste politique, vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas lu jusqu'au bout. En fait, ce qu'on voulait, c'était faire un cri de colère, c'était des motifs vraiment politiques et tout. Donc si ce bouquin raconte n'importe quoi sur la vie d'Omar et qui se permet de balancer les filles, bon, c'est pour des raisons politiques, quoi.
Alors, des raisons politiques qu'il aura énormément de mal à énoncer, évidemment,
Des
hein.
raisons politiques qui, en fait, se résument, avant même de rentrer dans le discours qu'il a dit, qui se résument, puisqu'on le sait, nous, à trois avances de Flammarion, de 5 000 euros chacune. Donc 15 000 euros, quand même, tranquillement, pour raconter des merdes innommables, à la fois sur son client, parce que c'est son client, il ne le considère pas comme autre chose que ça, et sur les gens avec qui il va comparaître dans le box. Plus 20% sur
Les
les ventes qui
ventes.
vont suivre, plus une demande d'AJ, tant qu'à faire, tu vois, autant
En
demander l'aide juridictionnelle
assise, ce
pour
qui
les
fait
assises.
globalement, et ça c'est ce que dit en fait la compagne, même d'Omar, qui dit en fait, il l'a vu trois fois, Omar, pour préparer ce procès. Il a fait sa plaidoirie le week-end avant, vite fait, là, en prenant trois notes, et après quelques coups de fil de ses assistantes qui lui racontaient vite fait ce qui s'était passé pendant les audiences. Et il a pris au bas mot 30 000 euros pour faire ça. Voilà. En
Vamos.
disant et en enfumant l'intégralité de la famille d'Omar pour le convaincre de tenir cette histoire-là et de le faire d'aller jusqu'au bout, en disant on va sortir ce bouquin, ça va te protéger et ça va faire que on va sortir de cette histoire. Ce type-là avait contacté la mère d'Omar le lendemain de l'évasion en disant je veux prendre cette affaire. Il a juste vu là-dedans de quoi se faire de la publicité et de quoi prendre des sous. Voilà.
Parce que
Et c'est ce qu'il
monsieur se raconte
voilà.
qu'il lutte contre la prison.
Ce qu'il n'a pas fait, et il lutte tellement peu contre la prison que il aboutit en fait à ne pas défendre son client. Enfin,
Bah, il lutte tellement pas contre la prison, par exemple, aussi, qu'il s'est permis de plaider en visioconférence en partant perdu d'avance pour les conclusions de peine de El Hadj.
Omar Top, il y a quelques mois. En disant de toute façon, t'auras pas ces aménagements, enfin
Donc je
ces
vais pas payer un
conclusions.
billet de TGV à 50 boules alors que j'en gagne 30 000 sur ton dos pour essayer de te faire réduire ton histoire quand même.
Voilà, parce que de toute façon, le procès en assises vient et avant le procès, tu gagneras rien du tout. Voilà. Donc, on passe sur sa rapide analyse, alors sa démonstration par l'absurde de ce qu'a été l'antipsychiatrie des années
Non
70.
mais
Alors, il
oui.
parle pas du tout des luttes de prisonniers, de ce qui s'est passé. Il va à côté et il dit, regardez, à une époque, on enfermait les gens dans des asiles, on les foutait dans des petites pièces. Puis il y a un mouvement, l'antipsychiatrie, dans les années 70. Il dit n'importe quoi sur ce qui s'est passé dans ce mouvement-là. Et ce mouvement aboutit au fait qu'après, les gens sont dans des appartements thérapeutiques. Voilà. Ce qui a été, tout le monde le sait, un progrès phénoménal, dans la mesure où tout le monde est cachetonné à mort, vit comme un zombie. Et n'a absolument pas fait disparaître l'enfermement asilaire, on le dit quand même au passage, mais il va juste piocher ça, parce que ce serait pratique, et ça lui permettrait de dire aujourd'hui et de faire entendre aux jurés qu'il n'est pas fou d'imaginer qu'un jour on pourrait se passer des prisons. Parce qu'on est dans une société, pardonnez-moi du mot, hein, je sais que ça va faire un peu olé-olé dans vos têtes, voilà, mais j'emploie le mot, allez, 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 j'y vais, dans une société capitaliste. Où il y a des pauvres, des riches, et des pauvres qui veulent voler des riches. Voilà. Bon, alors ces gens-là,
Sachant que ce mec pue le fric. Hein,
Oui, c'est ça. Et ces gens-là, bah, lui en est un de riche. Et ils volent les pauvres. Mais donc, sachant que ces gens-là, évidemment, bon, bah, c'est pas bien ce qu'ils font, il faudrait trouver d'autres solutions qui sont pas forcément la prison, et il faut qu'on les imagine à terme. Dans toute cette histoire-là, son client a absolument disparu de sa plaidoirie, les faits ont absolument disparu de la plaidoirie,
Mais parce que
sauf,
cette plaidoirie, elle a été écrite il y a 6 mois. Hein.
voilà, et pour justifier qu'ils disparaissent de la plaidoirie, encore une de ces subtils mouvements des jambes des avocats qui ne travaillent pas, qui est de dire, regardez ce dossier que vous avez sous les yeux, mesdames et messieurs les jurés, mais en fait, vous vous faites avoir, vous n'avez pas accès à ce dossier. Il est composé de milliers de pages. Vous allez juger cette personne et vous n'avez pas accès à ce dossier.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Évidemment, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai.
Mais
Mais
lui non plus, il n'a
lui-même
pas lu.
n'a pas lu ce dossier, visiblement. Voilà. Bon, on enchaîne sur des, sur des, voilà. Donc là-dessus,
non, après on peut quand même dire un truc
il
sur
a rien dit sur l'attitude d'Omar pendant le procès.
pour
Il n'a
finir,
rien dit.
voilà,
Il
c'est
n'a rien
ça.
dit sur tout ce que Omar a essayé de dire, tant bien que mal, pendant ce procès. Il n'a pas eu. Il a plutôt taclé Omar en disant. Oui, je sais, il vous a dit que ce roman, enfin que ce livre était un roman, mais attendez, c'est pas moi qui l'ai écrit, on l'a écrit ensemble. Enfin voilà, il s'excuse, lui, auprès de la cour et de ses collègues. Enfin ça, il plaide pour sa petite gueule à lui, à ce moment-là. Et au passage, il enfonce un peu plus la tête sous l'eau d'Omar.
Nous, on peut dire ça quand même, hein, c'est que quand ce bouquin est sorti, on a été fâchés et on sait que beaucoup de gens ont été fâchés par la teneur de ce bouquin qui était insupportable à l'époque, hein, quand c'est sorti. Et on en a voulu à Omar, vraiment, avec qui on était en contact à l'époque puisqu'il nous écrivait beaucoup. Et voilà, maintenant on commence à comprendre vraiment le truc. On a vu ce type, on a vu l'enfumeur public dont il s'agit. Et on a vu aussi surtout comment Eladj s'est comporté pendant 15 jours et ce qu'il a fait pendant ce procès qui était la plupart du temps vraiment très impressionnant, qui était plus que digne, qui était des cris d'humanité en permanence. Voilà, donc on voit bien que la teneur de ce bouquin n'est pas du tout représentative de qui est Omar, tel qu'il s'est montré encore aujourd'hui, on le racontera un peu plus tard.
Non mais lui il dit juste que il excuse Omar, il pense excuser Omar auprès des jurés en disant mais bon vous savez Monsieur Top il revendique, il a sa
Il est un
personnalité,
peu irritant, il est
il
un
a ses
peu.
défauts,
C'est ça.
voilà.
Mais en fait, ses
Mais
défauts, c'est ses qualités.
voilà. Là-dessus il fait juste deux passages rigolos, on va dire, sur précisément la robe du proc, l'hermine des procs et du juge, qui sont les seuls magistrats à cet endroit-là. Leur position un peu centrale et tout, tout en leur faisant des grandes œillades et des grands sourires, en les prenant à témoin, et en fait, en pensant se les mettre dans la poche comme un mauvais joueur de bonneteau, quoi. Enfin, je veux dire, ce type joue au poker comme un enfant de 8 ans et demi, et il a l'impression qu'il enfume l'intégralité de la salle. Avant de passer à la suite, on fait une pause.
Allez.